Nous voici dans la deuxième partie de notre émission et on va vous présenter Marc Fesse. Marc Fesse, c'est un auteur que Manon et Léa ont eu la chance de rencontrer la semaine dernière à l'occasion de sa venue au bar La Part des Anges dans le cadre des événements organisés par Roseven. Ça y est, vous faites le lien, vous vous souvenez, l'assaut c'est celle dont on a parlé plus tôt dans cette émission.
Et oui, Marc Fesse a 22 ans, il est l'auteur d'un bouquin qui s'appelle La Communale, paru en 2019 aux éditions du Commun, et c'est son tout premier roman. Marc Fesse est un militant de l'éducation populaire et il est d'ailleurs à l'origine d'une chaîne de vidéos qui partage des réflexions sur les sciences de l'éducation que je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Le Bureau des méthodes et c'est génial. Il est aussi un militant de longue date pour l'environnement. Originaire de Rennes, il a posé ses valises à Montreuil où il vit depuis maintenant 3 ans. Dans son roman La Communale, il renoue avec sa Bretagne natale puisque le récit se situe dans la ville de Rennes. On y suit les aventures d'Achille, un jeune étudiant de Rennes 2 qui milite à l'UNEF. De fil en aiguille, Achille va trouver ce mode de lutte un peu tiède. Il va rencontrer des personnes qui vont lui faire découvrir une autre facette de la lutte, où l'engagement militant ne se cantonne pas à des horaires de bureau, où le privé devient politique, où tout est politique.
Alors le roman La Communale est paru il y a donc un peu plus d'un an, et Marc Fesse a déjà eu l'occasion de présenter son livre dans des librairies ou des milieux militants de la gauche rennaise, évidemment. Mais le 17 juin dernier, à La Part des Anges, il a choisi d'en parler sous un angle un peu différent de ce qu'il avait l'habitude de faire.
Tout à fait. Habituellement, Marc Fesse est invité pour des présentations basées sur les réflexions et les actions politiques d'un groupe dit d'extrême gauche, comme celui qu'on peut retrouver dans son récit. Ce soir-là, à La Part des Anges, la rencontre avait pour thématique la découverte de son homosexualité en milieu hétéro. Ce qui, comme l'a confié Marc Fesse, est un titre assez provocateur, car la découverte de son homosexualité se fait toujours en milieu hétéro. Car oui, vous allez le voir, c'est seulement à la fin du bouquin qu'Achille, le personnage principal, parle de sa vie amoureuse, de ses désirs. Et ça, pour Marc, avec le recul, après relecture, ça a un sens politique. Et quel meilleur endroit que ce bar féministe de la rue Sainte-Melaine pour accueillir une telle rencontre. On écoute l'auteur.
Moi, je suis rennais d'origine, j'ai grandi à Rennes et j'ai été étudiant dans une école pas très loin de Rennes 2. J'étais à Rennes pendant en 2016 pendant le mouvement social contre la loi travail. Ce mouvement-là m'a fait vivre avec des gens et m'a immergé dans un mouvement social sans précédent pour moi, qui était en fait un mouvement social qui m'a éduqué en tant que militant politique. Et quand j'ai obtenu un bon premier travail à Paris, l'année d'après en gros, tout ça me paraissait très lointain, presque comme si j'avais vécu un rêve, quoi. J'ai voulu le raconter dans un livre que j'ai écrit sur mon temps de travail, le mois d'août, premier taf, on n'a pas de vacances, donc on écrit. J'écrivais quoi. C'est le moment où on se sent un peu seul, on n'a pas de potes à Paris et tout le monde est parti en vacances et il se passe rien à Paris et tout ça. Donc voilà, mais on est obligé d'aller au travail. Donc voilà, donc j'ai écrit un bouquin que j'ai publié, qui est sorti l'année dernière en 2019 aux éditions du Commun. Et c'est dans le cadre de ce bouquin que je suis là à La Part des Anges ce soir, parce que l'un des angles morts du bouquin, c'est l'homosexualité du personnage qui n'est dit qu'à la fin. Pourquoi ? Parce que justement le personnage oublie de parler de son homosexualité à ses amis, etc. Et moi, c'est ce phénomène-là d'homosexualité honteuse que je viens discuter avec les clients de La Part des Anges ce soir. En gros, c'est un roman un peu choc qui montre une facette du militantisme qui n'est pas visible habituellement, c'est-à-dire la vie quotidienne de ceux qu'on décrit habituellement médiatiquement comme le black bloc, des gens dangereux, etc. Donc là, on suit le quotidien des gens qui vivent en squat, etc. C'est un peu ça qui intéressait médiatiquement les gens qui ont parlé du bouquin. Pour autant, moi, il me semble maintenant, à la relecture, 2 ans après la sortie, enfin un an après la sortie, mais 2 ans après l'écriture, que il y a un sujet qui est en fait mon personnage. Il est homo et il vit pas de l'histoire d'amour pendant tout le roman, quoi. Et qu'est-ce que ça cache ? Et en fait, c'est un phénomène que moi je décris maintenant comme l'homosexualité honteuse, mais qui en fait, qui n'est pas dans un milieu hostile. On n'est pas chez Édouard Louis où il se fait cracher dessus dans les couloirs de l'école. C'est pas ça. C'est, on est dans un milieu où il y a une hétéronormativité, c'est-à-dire qu'il est normal d'être hétérosexuel, et donc ça va de soi d'être hétérosexuel. Et donc on rencontre que des personnages qui sont hétérosexuels, qui sont pas du tout hostiles à l'homosexualité. D'ailleurs, certains sont bisexuels non pratiquants, c'est le mot à la mode. Et lui, mon personnage, il vit son homosexualité en dehors de son groupe d'amis militants. Et qu'est-ce que ça génère ? Ça génère un fractionnement entre son identité sexuelle et son identité politique. Et c'est ce que je viens questionner ici, c'est la difficulté de faire converger son identité homosexuelle et son identité politique d'extrême gauche. C'est lié aussi avec, c'est en lien avec la difficulté de trouver des milieux homo intéressants ici, jusqu'à l'ouverture de la part des anges. Il y a une vraie droitisation du milieu homosexuel. Les homosexuels votent de plus en plus à droite. Il y a un sondage IFOP qui est sorti l'année dernière, juste après les européennes. Et dans ce sondage, on voit qu'il y a une surreprésentation du vote homosexuel parmi les votants FN et les Républicains. Ce qui est hyper inquiétant, je veux dire, ce que ça nous dit, ça, c'est que quelque part, il y a une partie de la population homosexuelle qui a oublié la valeur intrinsèque de solidarité que doit porter notre condition d'opprimé. Que de notre condition d'opprimé qui est de moins en moins réelle, mais nous, en portant une condition d'opprimé, en tout cas de minorité, on a un devoir par capillarité d'être solidaire avec les autres minorités qui luttent, et en tout cas de lutter contre tous les rapports sociaux de domination. Il se trouve que ça s'oublie petit à petit au fur et à mesure que les homosexuels masculins obtiennent de plus en plus de droits. Et dans le milieu militant d'extrême gauche, ça crée un vrai schisme entre nous autres, les homos d'extrême gauche, et les propositions qui nous sont faites, qui tournent autour de, en gros, la fête, Beyoncé et la baise, quoi. Voilà. C'est une forme de mécanique à laquelle moi je pense qu'il faut vraiment qu'on résiste. Et ça existe ici, ça existe ailleurs. Moi je vis à Paris maintenant depuis un petit bout de temps. Il existe le milieu queer autour duquel s'organisent tout un tas de choses. Il y a notamment le Pink Bloc. Dans chaque manif, maintenant, il y a le Black Bloc et le Pink Bloc. Et il y a aussi y a le Comité de Libération Autonome Queer. Bref, il y a tout un tas d'actions de solidarité portées par les homos, les gays et lesbiens, ce qu'on appelle le milieu transpédéguine à Paris. Donc c'est un milieu plus alternatif et qui est plus orienté vers un courant politique, quoi. Moi, je dirais que c'est en tout cas une obligation de questionner un certain nombre de choses, notamment l'hétéronormativité, mais aussi la famille bourgeoise telle qu'elle existe comme cellule d'organisation de la société. Et ça veut dire, par exemple, si on se met à critiquer la famille bourgeoise, on se met à critiquer le rôle des femmes comme génitrices, uniquement génitrices, on se met à critiquer également le rôle du patronat, on se met à proposer des structures autogestionnaires où on peut partager, par exemple, la parentalité, etc. Bref, en gros, on remet en cause l'organisation globale de la société. Moi, ça me plaît. Je veux dire, c'est une entrée, évidemment, qui me plaît beaucoup, c'est de ça que je vais parler. Et ensuite, je vais faire une lecture des parties de mon bouquin qui évoquent l'homosexualité. Et ensuite, je vais donner la parole à la salle pour qu'il y ait un partage d'expérience là-dessus, quoi.
Dans une passive attente de jour nouveau, j'ai rencontré l'ennui. Dans les rues froides, apprenant la langue en lisant les panneaux, entrant dans quelques magasins par curiosité, et puis j'ai rencontré Camille. Je visitais les longues rues rectilignes de Žižkov, ce quartier de l'est de Prague, aux façades taguées et aux bars animés. Une techno inconnue, bouleversante, émanait des boutiques et des voitures. Et il ne faisait pas encore tellement froid, mais il faisait nuit tôt et on sentait les longs mois mélancoliques de l'hiver s'installer et prendre leur marque et imposer petit à petit la vie à l'intérieur, calfeutrée. J'avais pas d'argent sur moi, mais je suis rentré dans l'un de ces bars et j'ai trouvé une faune nouvelle. Des gens dont je n'aurais pas su dire pourquoi ils me semblaient à la fois différents et semblables. Une insaisissable nuance me les rendait attirants. J'ai fait semblant de lire pendant quelques minutes, puis un garçon est venu s'asseoir en face de moi, en posant deux grandes bières sur la table, sans rien dire, juste en me regardant, droit dans les yeux, fixement, avant de me tendre la main et de dire « Camille, enchanté ».
Achille a 23 ans, et le truc c'est qu'il me ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. Moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre autrement les choses, mais mon personnage, lui, ce qu'il vit, c'est que... Il est tellement engagé, il vit une forme de dépucelage politique. Il part d'un militantisme de type UNEF assez traditionnel, dans lequel les combats sont de l'ordre de baisser le ticket du Resto U, baisser les loyers dans les résidences du Crous, ce qui sont des combats politiques qui se valent. Mais lui, il rencontre des gens qui ont envie de faire la révolution, en fait, tout simplement. Et quand on a envie de faire la révolution, en fait, il y a un champ des possibles qui s'ouvre, un champ des possibles où tout devient politique. Manger, faire l'amour, boire, voler dans les supermarchés, le rapport à la violence politique, etc. Bref, il est occupé mentalement par toutes ces choses. Et toutes ces choses, en fait, finalement, finissent par le travailler. C'est un roman d'apprentissage, donc il est concentré sur ce qu'il vit. Et en fait, il finit par s'oublier, alors que les autres autour de lui ne s'oublient pas. Et en fait, ce que moi, je veux mettre en évidence, c'est qu'en gros, lui, la mécanique d'oubli de sa sexualité propre, elle est davantage subie par les homosexuels, parce qu'eux ont moins d'occasions, on rencontre moins dans une soirée. Donc il faut faire la démarche, il faut dépenser de l'énergie pour aller dans un lieu gay où on connaît personne, ou pour aller sur une appli gay où on va subir la violence parfois raciste ou sexiste. Enfin, l'enfer des applis de rencontre gay, ça vaut peut-être le coup d'en faire toute une émission.
Il venait de passer son bac et semblait peu préoccupé par les études, mais davantage par la musique, la fête et la nuit. Camille avait des allures d'aventurier, le genre de garçon à qui les choses arrivent et qui fait arriver les choses. Voilà comment je suis devenu amoureux de Camille. Alors à la fin de l'année, quand c'est le retour du printemps, ça se passe du mois de septembre au mois de juin, il écrit ceci. J'avais besoin de penser à quelqu'un, j'avais besoin de revivre un amour comme à Prague, comme pour épaissir la vie, parce que nos convictions ne suffisent pas. On peut consacrer sa vie à Dieu si on y croit et rester chaste pour lui, mais on ne reste pas chaste pour la révolution, c'est trop bête. D'ailleurs, la révolution ne l'exige pas. Mathis et Louis me faisaient régulièrement des remarques. Pourquoi t'es jamais accompagné, Achille? Regarde-nous. Regarde Yann, faut s'amuser un peu. De temps en temps, regarde. Laisse-toi aller. Cherche, regarde autour de toi. J'avais un discours tout prêt pour ça. Un argumentaire à base d'auto-justification. J'ai pas besoin d'amour puisque je vous ai vous, puisque j'ai cette vie. L'amour, quand vous l'entendez, ne m'intéresse pas. Mais c'était de moins en moins vrai, et il commençait à faire mouche. Je ne me réveillais pas en pensant à la communale. Je ne me masturbais pas en pensant à la révolution. Je ne couchais avec personne, et ça a fini par me travailler.
Ce dont je vais parler là tout à l'heure, je vais parler de ce qui s'est passé dans les années 70. Dans les années 70, on a vu apparaître partout en France des GLH, les groupements de libération homosexuelle. C'est assez bien décrit dans un bouquin qui s'appelle « Qui sème le vent récolte la tapette ». Et ça raconte en gros comment des groupements marxistes se sont séparés du Parti communiste parce que le Parti communiste considérait que l'homosexualité était un vice bourgeois et qu'il fallait trouver des cellules de lutte militante qui soient à la fois d'essence marxiste mais aussi homosexuelle. Et dans l'idée, moi, le parcours de mon personnage qui vient d'un milieu bourgeois, il a quand même une double illégitimité. Il a une illégitimité à vivre dans un squat et adopter des habitus de la rue alors que lui, il vient d'un type de famille où il a théoriquement pas à se soucier de problèmes d'argent. Et donc en fait il a un souci, c'est que quand on vient d'une famille bourgeoise, c'est presque insultant pour les prolétaires d'adopter le mode de vie prolétaire. C'est presque mimer le mode de vie prolétaire par jeu et par excitation individuelle. Bon, ça c'est un sujet qui me travaille en ce moment, mais le double sentiment d'illégitimité, c'est qu'en gros il a jamais eu de soucis dans son milieu à lui avec l'homophobie. Pour autant à la fin, et c'est la suite du bouquin qui va sortir là. Achille, il arrive à Paris et il se comporte comme s'il avait été victime de l'homophobie alors que c'est pas le cas. Mais la question c'est, est-ce qu'il faut avoir été victime d'une injustice pour la combattre? C'est la question de la légitimité. Est-ce que pour défendre les prostituées, il faut avoir soi-même été prostituée? C'est toute la question.
En gros, moi, ce que j'essaye de donner comme tentative d'explication de ces passages-là, c'est que sans sociabilité homo, c'est-à-dire sans fréquenter d'autres homos, il y a une tentation d'une inhibition de son identité au profit de la recherche du conformisme. On veut ressembler à ceux qu'on fréquente le plus. C'est un caractère assez humain, le mimétisme. Et on se dit qu'on vivra sa sexualité plus tard ou alors ailleurs. Ailleurs, ça veut dire discrètement ou s'en aller faire un plan cul pendant la soirée, revenir une heure après, etc. Bref, en gros, séparer sa vie intime de sa vie sociale. Et là encore, le problème, c'est pas... Même si l'homophobie existe et que le personnage a la chance de ne pas connaître l'homophobie, l'homophobie existe encore souvent, on ne se trompe pas là-dessus. Mais là, c'est pas ça, c'est simplement qu'on est entouré d'hétéros qui ne sont pas forcément homophobes, mais qui sont hétéros et qui, par leur hétérosexualité, en fait, propagent l'hétéronormativité et sur lesquels il est peut-être intéressant de les questionner. Quoi.